Lorraine Glaze, vous êtes la directrice du musée Anglada. Régulièrement, vous nous proposez des expositions qui tournent autour de la collection Jacques Doucet. Cette année, on peut dire que vous vous intéressez plutôt au métier de Jacques Doucet, qui était couturier d'une certaine façon.
Oui, d'une certaine façon, on tourne un petit peu sur cette histoire de la mode, du luxe, du rapport aussi au corps féminin, du rapport aux matériaux. Parce que chez un couturier, il va y avoir effectivement une acuité à l'ère de son temps, une acuité par exemple aux nouveaux matériaux qui vont être inventés à l'aube du XXe siècle, etc. Un bottier se trouve forcément un peu dans les mêmes problématiques, avec une vraie attention à la matière, un souci du confort d'une femme, le fait de lui faire plaisir. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de chaussures par exemple, où on sent un peu un homme au pied des femmes, comment dire, c'est-à-dire au-delà de la question de son métier, il y a vraiment un vrai souci du corps féminin, d'être sûre que cette femme sera heureuse de mettre ses chaussures, par exemple, parce qu'elle serait confortable, parce qu'elle se sentirait belle avec, parce qu'elle aurait une démarche particulière ou une façon de marcher, une élégance qui est supplémentaire. On sent très très fort, je trouve, ce souci-là chez Raymond Massaro. Et du coup, je pense qu'effectivement, ça fait écho assez simplement avec les collections qu'on présente habituellement.
Vous avez effectué le choix justement de Raymond Massaro et de la dynastie Massaro, puisque finalement il y a 3 générations et même 4 avec sa fille qui elle n'est pas du tout dans le métier de bottier.
Alors, elle est juste à côté de nous, Madame Massaro, Laurence Massaro. Ceci dit, c'est une créatrice aussi à sa façon. C'est quelqu'un qui est dans le métier du livre. Elle est éditrice, donc forcément, des choix à nouveau, la matière, etc. Le souci de faire plaisir à son futur lecteur. Je pense que c'est des choses qui lui parlent quand même. Donc, on est dans des générations vraiment de créateurs. En fait, je ne sais plus très bien finalement si c'est elle qui m'a proposé ou moi qui lui ai demandé. Ben, c'est un peu les deux, je crois. Il y a eu une petite ouverture, etc. Parce que Madame Massaro, qui donc conserve une grande partie des collections, des archives, notamment ce que nous montrons, n'habite pas très très loin. Donc c'est une amie fidèle du musée, elle vient voir nos expositions, elle s'intéresse à nous. Enfin, puis c'est venu assez naturellement comme ça, de façon très simple. Après, il y a aussi l'envie de rafraîchir, moi, mon regard. Parce qu'effectivement, vous disiez, je m'occupe de cet endroit, mais j'en fais toutes les expositions. Ça va gentiment faire quelques années que je suis ici. C'est peut-être la 15e exposition que je fais. Et je dois dire que j'ai eu besoin aussi, je crois, de justement rafraîchir mes yeux quelque part et de m'attaquer à un sujet qui était finalement relativement éloigné de ce que je fais d'habitude, parce que là, j'ai à présenter des chaussures. Et j'ai donc des objets en 3 dimensions qui ne sont pas forcément familiers. Ce ne sont pas forcément toujours des objets inutiles, dans le sens où on est bien d'accord que c'est un objet typiquement humain, que la chaussure, comme tous les vêtements, mais qui fait partie de nos vies. C'est un objet qui nous est très familier. Donc là, on est quand même dans quelque chose qui serait un peu différent. Et aussi, de me pencher sur ses savoir-faire. J'ai appris énormément, rien qu'en termes de vocabulaire, rien qu'en termes de compréhension des métiers manuels. Moi, je m'intéresse beaucoup plus à l'intellect, habituellement, dans les expositions que nous projetons, dans le sens où je vais montrer un artiste, etc., et pas forcément avoir à expliquer comment il dessine. Là, du fait que s'agisse d'un soulier fait sur mesure, qui est le cas de n'importe quel, c'est ce qui définit donc du coup le métier de bottier, celui qui fabriquerait une chaussure sur mesure, fait que je suis obligée de rentrer dans ce savoir-faire, dans ce savoir et ce faire. Et là, du coup, derrière, moi, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, une sorte de rafraîchissement. J'espère aussi, du coup, que les gens, ça leur fera plaisir de découvrir, parce que, encore une fois, même s'il s'agit d'un objet qu'on a l'impression de très très bien connaître, je suis pas sûre déjà qu'on en comprenne tous les secrets, et heureusement, Raymond Massaro nous permet de nous interroger dessus.
Laurence Massaro, une première question qui n'est peut-être pas la plus facile, puisqu'en fait, cette exposition, vous venez de la découvrir avec nous.
Ce matin,
ça a été vraiment une première. Est-ce que vous avez déjà quelques réactions?
Moi, j'ai trouvé que c'était une collection qui était dans le feutré, dans le cosy, comme on dirait maintenant. C'est tout ce que mon père aimait, parce que ses petits salons en rue de la Paix étaient cosy et feutrés. Et donc, j'ai retrouvé cette ambiance, je dirais presque, qui m'est venue une odeur de cuir d'un coup. Ça m'a beaucoup émue. Les premières minutes ont été intenses. J'étais beaucoup dans l'émotionnel et je me disais, je vais jamais arriver jusqu'au bout. Mais en fait, si. Lorraine a fait un travail magnifique parce qu'elle est allée à la rencontre des œuvres de mon père. Elle a fait un travail de recherche historique et je l'en remercie parce que quelquefois nous avons échangé et elle m'a appris des choses que moi je ne connaissais pas et vice-versa, on a fait un travail d'échange. Voilà. Et donc dans cette exposition-là, il y a son reflet artistique et je sais que mon père, du haut de son firmament. Il doit être vraiment content parce qu'elle a su reconstituer son parcours à travers les années, la généalogie, l'arrière-grand-père, le grand-père, l'oncle et moi, la quatrième génération, où je me positionne là, mais bon, voilà, je n'ai pas d'œuvre, moi. Je suis juste éditrice dans une autre forme de transmission. Donc voilà, moi, je suis très ravie de cette exposition qui illustre bien Raymond Massaro, mon père.
Les œuvres sont constituées de pièces uniques. Et vous avez eu une phrase extraordinaire en nous présentant cette exposition. Vous nous avez dit, ce sont des chaussures pour des femmes qui ne marchent pas.
Alors, ça dépend des chaussures. Certains souliers sont pour des femmes qui marchent, sont aussi pour des femmes, par exemple. On a des souliers de Marlène Dietrich, des souliers qui sont utilisés sur scène. Donc, par exemple, ça peut être aussi dans un contexte très particulier d'utilisation. On a aussi des chaussures qu'on ne peut pas mettre, très clairement. Voilà, donc il y a différentes configurations. Mais il y a aussi, étant donné l'ancienneté de cette maison, elle est fondée à Paris en 1894 par Sebastiano Massaro, donc d'origine italienne. Et forcément, on traverse quasiment un siècle de problèmes de souliers. Je pense que nos auditeurs et auditrices peuvent tout à fait comprendre ce que je dis, c'est-à-dire rien que le raccourcissement de la jupe, le fait qu'effectivement les femmes se soient mises à courir sur le pavé parisien ou avignonnais avec un ordinateur sous les bras et des gamins, et etc., a fait que le monde a considérablement changé au sein de ce siècle-là. Et effectivement, le soulier en est le reflet. On le voit très très bien. Il y a des chaussures qui sont d'intérieur, je dirais, pour des dames qui sont transportées jusqu'à leur calèche éventuellement. Enfin, j'exagère à peine, mais enfin, on est quand même un petit peu là-dedans. Dans tous les cas, ceci dit, ce qu'a fait donc cette maison Massaro sur un siècle, c'est que c'est vraiment de la chaussure qui relève du bijou. Il y a vraiment l'idée de, au-delà de la pièce unique, c'est de la pièce rare, de la pièce singulière, de la pièce qui correspond à sa cliente, pour qu'elle y soit à l'aise, pour qu'elle ne se sente pas déguisée, mais qu'elle soit vraiment dedans. Le problème du à l'aise, c'est que ça ferait la chaussure ordinaire, confortable. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans cette femme, en fait, très élégante, qui veut se singulariser, qui veut être elle-même. Donc ça veut dire, encore faut-il qu'elle ait trouvé déjà elle-même ce qu'elle veut être, que son bottier, en l'occurrence Raymond Massaro, l'ait entendu, ait compris et ait réussi à le faire. Et c'est ça, en fait, que j'ai cherché vraiment à réussir à montrer. J'espère y arriver. Mais je pense que ça, ce sont des choses qui peuvent vraiment parler, en fait, au public. On a tous un rapport assez particulier. C'est comme des objets un peu fétichisés, quelque part. De toute façon, les chaussures sont un peu ça. Mais voilà, on a tous un rapport assez particulier à nos chaussures. Enfin, il me semble, voilà, donc ça peut être quelque chose aussi qui fait plaisir à notre public.
Donc, dans cette exposition divisée en trois parties, donc le savoir et le faire, la création et l'innovation, on voit vraiment 130 ans de création de la maison Massaro. Et en tant que spectateur, je trouve qu'au départ, on a quelque chose de très épuré, d'extrêmement élégant, d'extrêmement sophistiqué, et au fur et à mesure qu'on voyage dans le temps, ça devient de plus en plus extravagant. Est-ce que ce n'est pas aussi le reflet des diverses époques qu'on a traversées ?
Alors, c'est peut-être effectivement une époque qu'on a traversée, mais c'était aussi la recherche de l'esthétique et du « plus toujours beau », entre guillemets, c'est ce que mon père disait. Donc, pour lui, c'était la recherche de comment faire mieux, mieux qu'avant, et beaucoup mieux. Et surtout être unique, parce qu'en fait, c'est ça qu'il cherchait, c'est des pièces uniques. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, là je l'ai bien vu, il me semble que je n'avais pas trop remarqué, mais au fur et à mesure, on a des choses comme cette pièce unique qu'il a vendue deux fois à des princesses saoudiennes. C'était une vraie recherche de l'esthétique, avec des rubis, des diamants, etc. Oui, et puis dans les collections de haute couture, c'était aussi une recherche de l'esthétique et du mieux.
Il y a des rapports très privilégiés entre la maison Massaro et à la fois Coco Chanel, Karl Lagerfeld, qui a été styliste chez Chanel, lui-même, on peut dire une amitié entre Raymond et Karl. On peut plutôt expliquer ces rapports très privilégiés avec Chanel en particulier.
Ça, je ne saurais pas dire, mais ça date de mon grand-père. C'est une amitié longue, fidèle et durable. D'ailleurs, Monsieur Lagerfeld est mort quelques semaines avant mon père. Et pour mon père, ça a été un réel chagrin. Trois semaines après, il est décédé. Donc je me dis, le grand maître partait et le second partait aussi. Mais c'était une amitié longue, fidèle et durable. Et ils avaient aussi la même façon de voir les choses, le côté artistique, la passion dévorante, tout. Voilà, c'est ça qui les a rapprochés. Après, je ne saurais pas plus. Moi, j'étais enfant, donc je voyais ça avec mes yeux d'enfant. Mais j'ai été rue Cambon participer à des défilés de haute couture du haut de mes 9 ans ou mes 10 ans. Donc, je trouvais ça fabuleux dans ce fameux escalier où Coco Chanel se mettait en haut. J'ai participé à ça. Voilà.
Moi, il me semble quand même le fait déjà de l'adresse, très simplement. Donc, Madame Chanel habitait à rue Cambon, ou était tout le temps rue Cambon parce qu'elle travaillait tout le temps, où elle était au Ritz. Et concrètement, Massaro est installé aux deux rues de la Paix. Donc ce qui veut dire déjà, il y a une proximité. Il était dans ce quartier du luxe, pour les Parisiens qui connaissent, on est à 3-4 rues en fait, de distance, donc ce quartier du luxe. Et effectivement, Coco Chanel faisait faire en fait, ses souliers dans différentes maisons, mais notamment chez Massaro. Et c'est parce qu'elle était chaussée par Massaro qu'elle a commencé à lui demander, par exemple, ce projet de la fameuse bicolore, qui sera celui qui a été retenu, et qui est la fameuse sling bag très très connue de Chanel. Et c'est ça que Lagerfeld a aimé. C'est pourquoi ensuite il a continué à travailler avec Massaro. C'était parce qu'il avait habillé et chaussé Chanel, et qu'avec elle, il avait conçu cette sling bag. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y avait déjà une historicité sur laquelle Karl Lagerfeld s'est toujours fondé. On le voit bien qu'il est tout le temps, dans sa direction artistique, il est tout le temps en train de réviser les codes Chanel. Donc c'était ça, en fait, qu'il aimait. C'était l'histoire qui accompagnait Massaro avec lui.
Dans l'exposition, il y a énormément de choses à voir. Commencer par des outils, d'ailleurs. Il y a même une superbe peau de crocodile, qui est là en toute légalité, il faut le préciser. S'il y a des personnes qui ont la fibre écologiste qui nous écoutent. Il y a aussi beaucoup de choses à lire. Alors là, c'est varié, parce que ça part de la Bible jusqu'à Gainsbourg, en passant par Proust, Suétone, Giono, Octave Mirbeau. Comment avez-vous effectué ce travail de bibliophilie et de citation ?
Alors, il y a des choses, voilà, jusqu'aux en haut des cuisses, elle est beauté. Ça, c'était très clairement...
Initial Baby.
Voilà, et c'est le Initial Baby de Gainsbourg. Là, pour moi, c'était une espèce d'évidence. Et d'ailleurs, je pense que quand Karl Lagerfeld dessine ses cuissardes pour la maison Chanel, je pense qu'il y pense aussi. Ça me paraît, voilà, un volet très, très rock'n'roll. Après, derrière, je me suis simplement à un moment interrogée, je le redis, pardon, mais sur cet objet très familier et très humain. Vous me direz, comme n'importe quel vêtement, en fait, qu'on porterait, certes, mais enfin, il y a quand même eu toujours quelque chose qui va nous lier, être humain, nous sommes des êtres parlants. Et du coup, j'ai cherché, simplement, qu'est-ce qui aurait pu avoir été dit. Il y a vraiment des découvertes que j'ai faites. Par exemple, j'avais jamais noté, moi qui suis historienne de l'art, j'ai toujours vu Judith en train de décapiter Holoferne du haut de son épée, sauf que je n'ai jamais été attentive au fait que c'était l'éclat de sa chaussure qui l'avait éblouie. Et qu'effectivement, sans doute, la chaussure est-elle une arme ? Parce qu'au-delà de voir les modèles, il faut bien voir aussi tout ce que cet objet représente de nos vies, en termes de statut social, de singularité. Mais combien de femmes peuvent vous dire que quand elles sortent habillées en costume, avec des escarpins, elles se sentent conquérir le monde ? Pourtant, le matin au réveil, ce n'était pas forcément le cas. Donc il y a cette sorte d'armure aussi qui peut être donnée par cet accessoire. Donc c'est ça que je suis allée chercher. Donc il y a toujours un petit... De toute façon, j'aime les mots, j'aime la poésie des mots. Donc du coup, je suis allée chercher effectivement un peu partout et on part dans tous les sens. Il y a des extraits, par exemple, le fameux conte des souliers rouges qui est extraordinaire, où cette jeune fille est obligée de danser parce que les souliers veulent danser. Ou bien il y a évidemment Raymond Massaro est l'auteur d'une petite collection de chaussures miniatures qui est assez extraordinaire, d'une grande finesse, enfin, avec des petits points juste merveilleux. Moi, pour les avoir eus entre les mains et vus de près, j'ai immédiatement pensé au lutin cordonnier. Donc du coup, on est un petit peu sorti de Cendrillon, ouais, bien sûr.
Laurence Massaro, dans une exposition, généralement, il y a un catalogue. Et moi, j'ai l'impression que pour visiter l'exposition, il faut avoir votre livre que vous avez écrit en amont de l'exposition, parce que finalement, peut-être, ça se complète et ça dialogue en permanence.
Peut-être, oui, ça se complète et ça dialogue en permanence. Mon père était aussi, comme vous, Lorraine, dans la recherche des mots. D'ailleurs, dans son livre, il y a beaucoup de citations, il y en a plein. Voilà, et puis Cendrillon, c'était aussi... Il aimait beaucoup Cendrillon. Ça peut faire un catalogue, mais ça se complète, oui, effectivement.
Il y a des questions, Lorraine Lass, tout à l'heure, vous m'avez dit au début de notre entretien. Oui, cette année, l'exposition s'était fait pour me reposer un peu les yeux, tout
alors,
ça. Mais c'est un boulot de dingue que vous avez fait, parce que vous avez totalement modifié, puisque là, on a des vitrines, on a des objets en trois dimensions, donc forcément, vous avez dû modifier toute la topographie de la salle d'exposition.
Alors effectivement, toute la scénographie, en fait, a été refaite. Elle est signée par le studio BT, qui est un studio d'architectes ici à Avignon. Effectivement, on a dû tout refaire. C'est un montage qui est très lourd. Alors, ce n'est pas forcément un sujet très, très intéressant, mais je ne dirais pas que ça m'a reposé. Je dirais que ça m'a rafraîchi sur le plan moral, intellectuel. Voilà, redonner, en fait, une manière d'aborder mes salles, une façon de les regarder aussi, d'appréhender, de réfléchir à ce que je pouvais proposer aux visiteurs. Voilà, c'est plus une histoire de se renouveler, je dirais, plus que se reposer. Parce que là, j'ai pas forcément le sentiment d'être particulièrement reposée et je pense que mon équipe qui vaguement m'entend, non plus.